Bonjour, c'est la période qui veut cela. En ce début novembre, où les visites rituelles au cimetière ont fait fleurir les chrysanthèmes, pas mal d'articles de presse ont abordé la question de l'éternité numérique. Étant donné l'abondance exponentielle des traces numériques que nous laissons sur Internet, réseaux sociaux, mails, mots de passe, enregistrements sur le cloud ou sur nos appareils, données administratives et financières, échanges intimes ou professionnels, livres, disques, films, etc., que deviennent ces traces après notre disparition physique? Autrement dit, notre identité numérique peut-elle et doit-elle nous survivre? L'évolution de la législation, en Europe ou ailleurs, laisse encore dans l'ombre bien des questions politiques, philosophiques et psychologiques. Elle consacre cependant une définition des données personnelles. Toute information se rapportant à une personne physique, identifiée ou identifiable. Une définition confortée par le chapitre 9 du Code civil français. Chacun a droit au respect de sa vie privée. Mais après la mort, ce n'est pas prévu. Des travaux de recherche universitaire commencent à déblayer le terrain. Mais comme d'habitude en ce qui concerne les innovations technologiques, un véritable business de la mémoire des défunts est déjà en plein boom. Et comme d'habitude, on y trouve le pire et le meilleur. Je ne citerai aucun nom d'entreprise, mais on en trouvera beaucoup dans les articles cités en référence de cette chronique sur le site d'Alternance FM. Quelles sont donc les prestations de services ? Il y en a au moins de trois ordres. Avant la mort, certaines entreprises proposent, moyennant finance évidemment, une checklist de précautions à prendre et de démarches à accomplir pour fermer et supprimer tous ces comptes numériques, rédiger des directives anticipées et désigner un locataire habilité. C'est d'ailleurs une option qui existe chez Google ou X. On évitera ainsi aux proches de se retrouver devant des communications pénibles et absurdes du genre « Pensez à renouveler votre abonnement » ou « Vous ne vous êtes pas présenté à votre rendez-vous ». On a aussi la possibilité de sécuriser un certain nombre de messages, écrits ou filmés, qui seront diffusés post-mortem à des destinataires désignés, à une date choisie d'avance, par exemple, pour souhaiter un anniversaire. Après la mort, d'autres services commerciaux ciblent les proches du défunt pour, disent-ils, faciliter le travail du deuil. Par exemple, en leur permettant de recevoir, de conserver certains éléments de ses comptes numériques, vidéos, audio, ou de fabriquer un mur du souvenir. D'autres, au contraire, se chargeront de tout effacer à la demande de la personne habilitée. Une offre du troisième type promet une sorte d'immortalité numérique, et cela ne relève plus vraiment de la science-fiction. Avec les avancées de l'intelligence artificielle, une entreprise peut vendre une application où les proches du défunt s'entretiennent avec un simulacre de lui grâce à des robots conversationnels ou des avatars comme dans les jeux vidéo en ligne. Toutes ces formules représentent souvent un casse-tête si rien n'a été prévu par le défunt. En raison des impasses juridiques sur la propriété des données, la définition de l'identité numérique, la notion de patrimoine numérique, le statut des hébergeurs de contenu, et les avis qui peuvent sérieusement diverger au sein de la famille entre droit à l'oubli et réactivation de la perte. On le voit, le marché de la mort aujourd'hui déborde largement celui des pompes funèbres, ce qui rend d'autant plus nécessaire l'anticipation et la concertation au sein des familles pour prendre les bonnes décisions sans se faire piéger par des vendeurs d'éternité et pour que les défunts puissent encore reposer en paix.